Vous écoutez, on lit pour vous.
Le pire n'est malheureusement pas écarté. Un texte de Philippe Mercure paru le 20 mai 2026 dans la presse. La rumeur se propage sur les réseaux sociaux jusque sur les comptes de professeurs d'université. Le scénario climatique du pire serait désormais écarté, ce qui nous permettrait de lever le pied sur nos efforts de réduction des gaz à effet de serre, GES. Malheureusement, c'est faux. Sous cette affirmation trompeuse se trouve une vraie étude, mais dont le sens a été détourné. Explication. Que dit la rumeur? L'ONU, via son GIEC, reconnaît désormais que la plupart des scénarios climatiques apocalyptiques sont considérés comme de plus en plus improbables. Ce qui signifie que bon nombre des récits climatiques axés sur la peur au cours des 15 dernières années pourraient devoir être atténués. Écrit ainsi sur X, Sylvain Charlebois, économiste, professeur à l'Université Dalhousie et professeur invité à l'Université McGill. Il est loin d'être le seul à en conclure qu'on peut donc souffler avec la taxe carbone et les autres mesures visant à limiter nos émissions. Roger Pielk Jr., un commentateur américain lié au groupe de réflexion conservateur American Enterprise Institute, publie notamment beaucoup de contenu à ce sujet. D'où vient cette rumeur? En remontant le fil, on découvre une étude publiée le 7 avril 2026 par l'Union européenne des géosciences. L'auteur principal est Detlef van Vuren, un climatologue à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Lorsque je l'ai contacté par téléphone, il semblait un brin découragé. Je suppose qu'il fallait s'attendre à ce que ces informations soient détournées pour laisser entendre que le changement climatique est exagéré. Ce n'est absolument pas le cas, martèle-t-il. Le passage qui a alimenté les rumeurs concerne un scénario qualifié d'extrême dans l'étude et appelé le SSP5-8.5. Ce scénario est aujourd'hui jugé non plausible par les scientifiques. Qu'est-ce que ce fameux scénario SSP5-8.5? Pour tenter de prédire l'évolution du climat, les scientifiques jonglent avec plusieurs scénarios. Ceux appelés SSP pour Shared Socio-Economic Pathways en français, trajectoire commune d'évolution socio-économique, décrivent des facteurs qui influencent les émissions de GES. Le SSP5-8.5, élaboré à partir de 2010, porte sur la consommation mondiale de carburants fossiles. Il décrivait à l'époque le scénario du pire, celui qui prévaudrait si l'humanité ne faisait absolument rien pour diminuer sa consommation de tels carburants. Ce scénario laissait présager des effets catastrophiques. Un réchauffement de plus de 4 degrés Celsius d'ici 2100, très loin de la cible de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris. Pourquoi ce scénario est-il aujourd'hui jugé improbable? Parce que depuis qu'il a été élaboré, l'humanité n'est pas restée complètement inactive. Des panneaux solaires, des éoliennes et des voitures électriques notamment ont remplacé une certaine proportion des combustibles fossiles qui auraient été consommés dans un scénario du statu quo. Le professeur Van Vuren attribue une partie du phénomène à la Chine qui s'est mise à produire des panneaux solaires à faible coût. Ceux-ci sont aujourd'hui utilisés dans des pays comme le Pakistan et la Malaisie, où ils remplacent de l'électricité émettrice de carbone. Le mouvement s'accélère en Chine, en Europe et un peu partout. L'Amérique du Nord résiste et on est clairement en train de se faire larguer, observe aussi Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM. C'est une bonne nouvelle, donc? En un certain sens, oui. L'étude indique qu'on ne suit pas le pire chemin possible, mais elle montre également qu'on n'emprunte pas les meilleurs. Dans le bas de la fourchette, de nombreuses trajectoires d'émissions ne correspondent plus aux tendances observées pour la période 2020-2030, lit-on dans l'étude. Les scénarios permettant de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, comme le stipule l'accord de Paris, sont ainsi désormais jugés inatteignables, ce qui est une fort mauvaise nouvelle. Peut-on néanmoins conclure que la Terre se réchauffe moins vite que prévu? Non, non et non, insiste Detlef van Vuren. Le scénario SSP5-8.5 concerne les émissions, pas les températures, explique-t-il. Les nouvelles prévisions sur les émissions devront maintenant être intégrées dans des modèles climatiques. Logiquement, on pourrait s'attendre à ce qu'un scénario moins catastrophique pour les émissions conduise à des élévations de température moins dramatiques. Mais c'est loin d'être sûr. C'est que les scientifiques soupçonnent maintenant que le climat pourrait être plus sensible aux émissions qu'on ne le croyait. En clair, qu'il se réchauffe plus que prévu pour un même niveau de carbone dans l'atmosphère. Les dernières années ont été marquées par une hausse remarquablement rapide des températures, souligne le professeur van Vuren. Certains éléments laissent donc penser que la sensibilité climatique pourrait en réalité être plus élevée que ce qu'on pensait auparavant. Mais il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Philippe Gachon de l'UQAM craint la même chose. On se rend compte que l'accélération du réchauffement dépasse ce qu'on avait anticipé il y a quelques années, dit-il. On le voit notamment avec la diminution de la glace marine et l'augmentation du niveau des mers. Si le scénario du pire est exclu pour les émissions, peut-on se permettre de relâcher un peu nos efforts de réduction? C'est tellement idiot, s'exclame Detlef van Vuren. Je devrais peut-être employer un autre terme, mais il s'agit d'un très mauvais raisonnement. Même avec un réchauffement de 2 à 3,5 degrés, les conséquences sur le climat seraient énormes, dit-il. Rappelons également que si on semble s'écarter du pire scénario d'émission, c'est justement parce qu'on a pris certaines mesures. Les abandonner risquerait de nous ramener à la case départ. C'est comme un patient souffrant d'un trop haut taux de cholestérol qui parviendrait à l'abaisser par l'exercice et l'alimentation. Si devant cette baisse, il conclut qu'il peut désormais rester sur son sofa et s'empiffrer, il commet une erreur de raisonnement aux conséquences dangereuses. Philippe Gachon y voit d'ailleurs un avertissement pour le Canada qui recule justement sur ses engagements climatiques depuis l'élection de Mark Carney. Au moment où le climato-scepticisme est en hausse au Canada, la controverse actuelle rappelle aussi le danger de véhiculer des informations tronquées et prises hors de leur contexte, que ce soit délibérément dans le but de tromper ou non. C'était « Le pire n'est malheureusement pas écarté ». Un texte de Philippe Mercure, paru le 20 mai 2026 dans la presse.
Changer le monde, un pot de pilule à la fois. Un texte de Martine Letarte, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Alors qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans les fioles de médicaments depuis des décennies, Ecolopharm est arrivé en 2010 avec un modèle en une seule pièce, fabriqué par un processus qui utilise 35 % moins de plastique. Les produits de l'entreprise de Chambly sont maintenant présents dans 35 % des pharmacies au pays. Ce sont des millions de dollars économisés en matière plastique non achetée chaque année par rapport à la concurrence, indique Sandrine Milante, présidente directrice générale d'EcoloPharm. Puis avec la fiole en une seule pièce, le processus de fabrication est nettement optimisé, tout comme la livraison. Cette optimisation est gagnante aussi pour la pharmacie parce qu'il y a moins de manipulations à faire et c'est bon aussi pour l'environnement puisqu'il y a moins de gaspillage, par exemple dû au bris et aux pertes de bouchons, explique Sandrine Milante. De plus, l'usine est zéro déchet. Chaque retaille est remise dans la production et certains produits sont fabriqués à 100 % de matière recyclée. Le choix du type de plastique fait aussi une grande différence. Tous nos produits sont en polypropylène, qui est recyclable, même nos piluliers, alors que la concurrence les fabrique en PVC, qui est non recyclable, nous dit Sandrine Milante. C'est lorsqu'elle était à la tête de l'entreprise familiale de transformation de plastique que l'entrepreneur a réalisé que les procédés de fabrication traditionnels ont un impact environnemental considérable. Alors que les déchets plastiques dans l'industrie pharmaceutique sont importants, et les besoins sont grands, notamment en raison du vieillissement de la population, elle a décidé d'agir en créant EcoloPharm pour développer des emballages pharmaceutiques éco-responsables. L'entreprise, en forte croissance, compte maintenant 42 employés et a une usine robotisée qui tourne 24 heures sur 24. Aller de l'avant malgré le politique. Si l'environnement n'est pas une priorité pour un dirigeant, l'entreprise ne va nulle part dans le domaine, remarque Robert Dubé, biologiste de formation, qui a longtemps dirigé des entreprises et des projets innovants en environnement avant de fonder les prix PDG Vert. Tout part de la tête dirigeante. C'est probablement plus vrai que jamais, alors que dans le contexte actuel, plusieurs gouvernements freinent leurs initiatives environnementales, comme Québec, qui a repoussé de 2030 à 2035 la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport au niveau de 1990. Mais cela ne signifie pas que le monde industriel fait la même chose. Selon Corinne Gendron, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, les entreprises ont déjà investi pour moderniser leurs processus de production et atteindre de nouvelles cibles environnementales. Puis elles savent très bien que les gouvernements se succèdent, que les catastrophes environnementales se poursuivent et que le sujet redeviendra prioritaire, donc elles continuent sur leur lancée. En tant que finaliste dans la catégorie Petite entreprise du prix PDG Vert 2026, Sandrine Milante est du même avis. Ce serait le fun que des lois obligent les entreprises à être plus vertes, mais en attendant, le milieu des affaires continue d'avancer et d'innover, affirme-t-elle. On ne retournera pas en arrière. Si le Québec est loin derrière l'Europe en matière notamment d'écofiscalité et de gestion des matières résiduelles, Corinne Gendron voit tout de même de belles réussites sur le terrain. Plusieurs initiatives portées par les milieux sont très innovantes, mais peu visibles, dit-elle. Puis de grandes entreprises font de belles choses qui peuvent en inspirer d'autres et susciter des changements positifs dans la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs avantages d'être vert. Malgré le contexte difficile, les candidatures de petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que d'organismes à but non lucratif au prix PDG Vert ont été nombreuses cette année, mentionne Robert Dubé. Nous en avons beaucoup plus qu'à nos débuts, en 2012, précise-t-il. Cela signifie que les entreprises n'attendent pas le bâton. Elles veulent dépasser la réglementation. Parce qu'elles croient à la cause et pour améliorer leur compétitivité et leur attractivité. Première firme d'emballage pharmaceutique à obtenir en 2018 la certification B Corp, qui s'adresse aux entreprises à but lucratif qui répondent aux normes élevées en matière de performance sociale, environnementale, de transparence et de responsabilité, Ecolopharm le voit. Ça aide au niveau de l'engagement, de la rétention et du recrutement des employés, affirme la PDG. Et c'est une position qui permet d'être unique sur le marché et de croître très rapidement. C'était « Changer le monde, un pot de pilule à la fois », un texte de Martine Letarte, paru le 22 avril 2026 dans la presse.
L'œil vieillit, lui aussi. Voici comment éviter les conséquences néfastes de 4 maladies oculaires courantes. Un texte de Langis Michaud, paru le 20 avril 2026 dans La Conversation. En tant qu'optométriste, je constate quotidiennement comment vieillir affecte le corps de mes patients, leurs yeux ne faisant pas exception. La perte de la vision et par conséquent de leur autonomie fait partie des plus grandes craintes des personnes âgées. Ceux qui la subissent sont lourdement affectés au plan psychologique. Voici l'histoire d'un couple typique d'une partie de ma clientèle qui cumule plusieurs pathologies à l'œil. Jacqueline et Henri. Ce dernier, ex-conducteur de camions lourds, souffre de diabète depuis plusieurs années. Il s'est oublié dans le travail et n'a pas consulté quand les points noirs et les lignes qu'il voyait déformées se sont multipliés avant que le rideau noir de la cécité ne tombe. Conséquence, il ne peut plus prendre soin de lui et a besoin d'aide au quotidien. La vision de Jacqueline n'est pas top non plus. Elle souffre de cataracte avancée. Elle tarde à se faire opérer car elle ne veut pas laisser Henri sans soins immédiats. Elle craint aussi le développement d'une dégénérescence maculaire. Ses parents en ont été atteints, forme humide, les laissant handicapés visuels à la fin de leur vie. Les personnes âgées en basse vision se sentent démunies. Et pourtant, il y a des ressources pour les supporter et optimiser leur vision. Des centres de réadaptation offrent du soutien et des services aux handicapés visuels. Des groupes de soutien permettent de parler à des gens qui vivent la même réalité. Mais il y a surtout des moyens de prévenir les conséquences néfastes du vieillissement sur la santé oculaire. Allons y voir. La rétinopathie diabétique. Le diabète représente la première cause de cécité évitable. Les lésions apparaissent en moyenne 10 ans après le diagnostic, type 1 juvénile, ou 20 ans, type 2 adulte. Au Canada, 18 % des personnes de 60 à 79 ans en souffrent. Au plan visuel, le diabète affecte la capacité à lire, les mouvements des muscles oculaires et l'altération et ou la prolifération de vaisseaux sanguins qui sont la cause principale de la perte visuelle associée au diabète. Surviennent d'abord des anomalies légères des vaisseaux sanguins, veines boudinées, petites hémorragies localisées, suintements de lipides, etc. Puis, quand la maladie évolue, les nouveaux vaisseaux se brisent et entraînent des hémorragies plus sévères. C'est la forme proliférative qui peut aussi générer un glaucome presque impossible à traiter. La cécité est pourtant évitable. D'abord, en consultant l'optométriste régulièrement, après l'âge de 45 ans ou dès que l'on se sait diabétique. En effet, 20 % des patients présentent déjà des lésions rétiniennes au moment du diagnostic de la maladie. Les symptômes visuels commencent par une vision parfois claire, parfois floue, et qui change de jour en jour. Des points noirs flottants, de plus en plus nombreux, voire des taches noires plus stables, la présence de flashs lumineux, la difficulté à reconnaître les couleurs, alors qu'on les avait toujours vues, sont toutes des manifestations associées au diabète. Henri les avait éprouvées, mais il n'a pas trouvé le temps de consulter en temps. S'il avait agi plus tôt, la maladie aurait pu être dépistée et stabilisée, réduisant les risques de complications. Le glaucome. Henri souffre également de glaucome, mais d'un type particulier, secondaire au néo-vaisseau de son diabète. Il ne s'agit pas du glaucome plus courant, dit à angle ouvert, lequel affecte 5 à 7% des Canadiens de plus de 60 ans. Ce glaucome, non lié au diabète, représente la seconde cause de cécité évitable au pays. Un fort lien héréditaire existe. Les patients dont les parents souffraient de glaucome sont plus à risque de le développer eux-mêmes. Comme le diabète ou l'hypertension artérielle, le glaucome se développe sans que le patient ne s'en rende vraiment compte. Certes, les contrastes peuvent être plus difficiles à voir, notamment le soir, en éclairage réduit, mais c'est l'étendue de ce que l'on voit de côté, champ visuel, qui se rétrécit lentement. La personne s'habitue à tourner la tête pour voir une chose qui pourtant se situe à côté d'elle. Les patients finissent par le remarquer en conduite lors d'un accident évité de justesse. Ici encore, les conséquences négatives sont évitables en consultant régulièrement l'optométriste. À l'examen, le glaucome sera visible par le nerf optique qui pâlit et devient plus profond. La pression à l'intérieur de l'œil augmente. Les champs visuels mesurés de façon préventive présenteront des défauts. Le diagnostic du glaucome sera établi. Pris en charge à temps. Le glaucome peut être bien contrôlé. Certes, il y aura toujours des pertes mineures de champs visuels, mais minimes par rapport à la condition non traitée qui, elle, peut entraîner la cécité. Des médicaments, gouttes, peuvent être prescrits, bien que de plus en plus souvent, favoriser une meilleure circulation des liquides de l'œil se fait en traitant les canaux internes de l'œil au laser, trabéculectomie, ou par chirurgie micro-invasive faite par l'ophtalmologiste. Les cataractes. Tout le monde qui vieillit verra son cristallin, la lentille à l'intérieur de l'œil, devenir opaque avec l'âge. C'est la cataracte. La vision devient floue, comme une vitre qui se salit tranquillement. Tout d'abord, la lecture et les détails sont vus brouillés, doubles parfois. Puis, les visages qu'on reconnaît moins. Les panneaux sur la route difficiles à lire, l'éblouissement qui accompagne toute sortie de jour comme de nuit. Les cataractes viennent du fait que le cristallin est responsable d'absorber les ultraviolets du soleil afin de protéger la rétine. À force de se faire bombarder, il change son métabolisme et perd sa transparence. La prévention relève d'abord de la personne qui doit notamment veiller à protéger ses yeux contre les rayons UV. C'est d'ailleurs vrai dès l'enfance, soit la période où, en théorie, on est le plus dehors et donc le plus exposé aux rayons nocifs. Les enfants qui ne portent pas de verre solaire adéquat auront des cataractes hâtives. Tout au long de notre vie, qu'il fasse soleil ou non. Il faut donc se protéger avec des lunettes solaires ou demander qu'un filtre contre les UV transparents soit ajouté à nos lunettes claires. De nombreuses lentilles cornéennes contiennent aussi des filtres UV. L'optométriste peut recommander les produits les plus appropriés. Manger sainement et maintenir une santé sous contrôle aide également. Ces mesures retarderont la cataracte sans toutefois l'empêcher. Quand elle sera visuellement dérangeante, elle devient opérable. La chirurgie est rapide, bien maîtrisée et permet de restaurer la vision en autant que la rétine, fond de l'œil, soit intacte. Les deux yeux peuvent être opérés durant la même procédure. Une cataracte trop mature peut entraîner un temps de récupération post-chirurgie plus long et plus de complications. Dans un monde idéal, toute cataracte serait opérée avant qu'elle ne nuise à la vision. On garderait ainsi une qualité de vie inaltérée. La dégénérescence maculaire. Jacqueline craint de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Les facteurs de risque sont là: hérédité, sexe féminin, origine caucasienne, absence de protection contre les UV. Heureusement, elle ne fume pas et Henri a cessé il y a quelques années. La fumée secondaire peut être aussi nocive que celle que l'on inhale. Par contre, elle ne peut pas lutter contre la première cause de la DMLA, soit le vieillissement, la proportion augmentant avec l'âge. Plus de 2,5 millions de Canadiens en souffrent. Jacqueline ne présentait pas de signes de DMLA sur la rétine à son dernier examen optométrique. Donc, pas de souci immédiat. À long terme, que peut-elle faire? La prise d'oméga-3 sous forme de triglycérides, 800 mg EPA par DHA par jour, a été jugée utile dans l'étude AREDS 1. Récemment, des complexes de vitamine B, 6, 9 et 12, ont été jugés protecteurs. Une alimentation saine, le contrôle médical de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol, ainsi que l'absence de tabagisme contribuent également à protéger la vision. De nouvelles approches thérapeutiques par micro-courant, électrodes transdermiques, peuvent aider à maintenir la vision en cas de forme sèche de la dégénérescence, alors que l'ophtalmologiste la traitera via des médicaments injectés dans l'œil lorsque celle-ci évolue vers la forme dite humide, soit celle s'accompagnant d'hémorragies et des vaisseaux qui suintent. Prendre soin de ses yeux tout au long de sa vie. Jacqueline et Henri nous rappellent qu'il ne faut pas prendre pour acquis le bon fonctionnement du sens vital qu'est la vision. Le vieillissement joue un rôle important dans le développement de pathologies qui peuvent mener à la cécité. Mais la plupart peuvent être évitées ou retardées en remarquant les symptômes qui apparaissent, en consultant son optométriste régulièrement, en maintenant une hygiène de vie et en contrôlant les problèmes de santé générale qui peuvent nous affecter. C'était « L'œil vieillit lui aussi ». Voici comment éviter les conséquences néfastes de quatre maladies oculaires courantes, un texte de Langis Michaud, paru le 20 avril 2026 dans La Conversation.